L'ellipse, une création de Cécile Riste pour le lieu qui s'appelle donc le Centre Jean Ferrat, Centre culturel d'Avion. Bonjour Cécile.
Bonjour René.
Donc une création ambitieuse et passionnante, j'imagine. C'est déjà une aventure.
C'est une aventure extraordinaire. C'est vraiment un projet un peu fou qui est né de la folie d'un producteur qui est mon partenaire de la compagnie qui s'appelle Guillaume Tobeau et qui avait très envie qu'on aille au bout de notre projet ou de notre rêve. Et du coup, on s'est permis, on a osé quelque chose d'un peu dingue. Et donc c'est comme une série qui va s'étaler sur 4 saisons. En fait, ça va se jouer en 2 parties, mais il y a 4 saisons parce que ça dure sur une année. Et on rencontre des personnages, une grosse dizaine de personnages, qui vont avoir un parcours, une révolution intérieure et politique, qui vont faire la révolution d'un monde qui a évolué, mais qui ressemble quand même un petit peu au nôtre. Empire, on va dire, avec une pollution insupportable, avec la peur de l'autre, avec des difficultés économiques, des difficultés avec l'eau potable, des difficultés énergétiques. Et du coup, un système politique qui devient assez oppressif. Et cette communauté va essayer de trouver la ressource et va trouver la ressource pour se transformer, pour s'ouvrir, pour oser à nouveau rêver. Parce que c'est un peu ce qui nous arrive en ce moment, c'est que confrontés à toutes les angoisses qui nous tombent dessus, le réchauffement, les difficultés politiques, la violence du monde qui explose de tous côtés, la pauvreté, tout le monde se replie. Et donc dans ce repli, comment oser rêver, oser projeter? Parce que comment créer un monde nouveau si on ne projette plus de monde nouveau, si on est tout le temps en train seulement de se protéger?
Donc un scénario un peu particulier, et ces personnes qui se retrouvent dans un lieu, un endroit, un espace qu'ils partagent de manière peut-être un peu inégalitaire, où on ressent quand même des ambitions de faire société.
Alors, disons qu'on retrouve un groupe humain dans une cinquantaine d'années après une grande catastrophe. Et effectivement, dans cette micro-société qu'ils ont recréée, ils habitent tous dans une tour, qui est une tour-ville, qui contient toute la biologie possible, parce que la biologie extérieure n'existe plus. Et dans cette tour, ben oui, il y a un échelonnage social qui s'est créé, avec une force, avec des règles, et donc oui, il y a des problèmes de hiérarchie très nets, il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des gens mieux traités que d'autres. Mais surtout, il y a une autarcie totale et une peur de l'extérieur extrêmement forte. Or, il y a des gens à l'extérieur qui vont se manifester et il va s'agir de savoir comment on se positionne vis-à-vis d'eux. Est-ce qu'on s'ouvre à eux ou est-ce qu'on se protège d'eux?
Alors c'est vrai que certains personnages, on peut même appeler ça comme ça, comme Elon Musk, pensent aller ailleurs, en groupe peut-être, dans des espaces, des vaisseaux spatiaux, et recréer des mini-sociétés. Peut-être qu'on y retrouvera des éléments de confort ou d'inconfort et des perturbations. Là, il y a un moment donné, ça bascule. Les perturbations amènent un dérèglement pas seulement climatique.
Eh bien, à un moment donné, se pose la question de comment est-ce qu'on fait face à l'inconnu et comment est-ce qu'on reste vivant, en fait, et comment prendre le risque d'aller vers l'inconnu, parce que si on reste tout le temps dans ce qui est connu, on se ferme au possible. Et pour pouvoir créer, pour pouvoir même faire société d'une autre façon, il faut pouvoir juste le concevoir et s'autoriser à accueillir un imaginaire, en fait. C'est le propre de la création. Il y a Henri Laborie a écrit là-dessus, dans Éloge de la fuite. Il y a un moment où, effectivement, si on reste cantonné au connu, on va aller nulle part et on va s'éteindre.
Le fait aussi de ne pas penser qu'autre chose est possible, ça limite forcément l'imagination, mais aussi les possibilités de survie.
Je pense, c'est ce que je pense, et c'est ce que la pièce, en tout cas, explore. Mais dans cette pièce, beaucoup de personnages pensent des choses très différentes, donc tous les points de vue, sont énoncés.
Donc ces différences de point de vue, est-ce que ça amène des conflits, des situations dramatiques, des tensions? Puis je sais aussi qu'il y a d'autres moments plus ludiques dans cette pièce Fleuve.
Alors, j'ai pas répondu sur Elon Musk tout à l'heure, j'y pensais. Personnellement, je suis pas sûre de soutenir tous les élans d'Elon Musk, mais certains personnages dans cette pièce, voilà, vont eux vouloir se projeter dans un ailleurs imaginaire et être prêt à tout mettre en œuvre pour y aller. D'autres, justement, vont être beaucoup plus protectionnistes par rapport à ça. Et pour ce qui est des tensions, oui, bah, y a des désaccords très forts. Et comment pouvoir faire corps, faire communauté, c'est aussi vraiment la question de cette pièce. C'est comment est-ce qu'on peut, malgré tous nos désaccords, et les désaccords sont très nombreux, et donc dans cette pièce, il n'y a pas un seul personnage qui est d'accord avec l'autre, comment, malgré nos désaccords, continuer à faire équipe et sans être dans l'exclusion. Et ça, c'est au cœur de ce qui se passe pour nous dans la société en ce moment. C'est-à-dire, on défend tous les particularismes, et c'est nécessaire, mais dans cette défense des particularismes, on maintient de l'exclusion permanente. On est tous en train de s'auto-exclure les uns les autres. Donc, comment passer par l'inclusion, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et pour revenir au comique, effectivement, tout ce que je dis là semble assez sérieux, mais tout ça mène à des situations assez cocasses dans cette pièce. Et donc, il y a aussi beaucoup de... Ça s'exprime de façon assez burlesque, très régulièrement, et de façon assez comique. Il y a aussi, il y a de la poésie aussi, beaucoup. Il y a de la danse, enfin, il y a du... Comme on est dans un univers qui frise, qui chevauche l'onirisme... Justement, qu'on parle des rêves des uns et des autres. Donc, il y a du fantasmagorique, il y a beaucoup de situations comiques. Et il y a aussi des situations graves qui sont quand même portées, mais qui sont soutenues par cet élan de comédie et de poésie qui fait le lien.
Donc, cette pièce, elle est sous-tendue par un écrit, un roman ou quelque chose, une trame?
Alors, c'est une pièce de théâtre que j'ai écrite. Donc je ne peux pas dire que ce soit un roman, mais c'est un peu une pièce fleuve. Ce n'est pas un roman fleuve, c'est une pièce fleuve qui ressemble beaucoup à une série, qu'on a beaucoup l'habitude de suivre des personnages de façon décousue et de les retrouver dans les séries Netflix. Il y a un côté très série Netflix dans la façon dont c'est construit, et c'est ce qui est voulu, mais c'est aussi ce qui est renvoyé par tous ceux qui voient le spectacle, avec des tableaux qui s'entremêlent, qui viennent se chevaucher et s'enchaîner. C'est très cinématographique, non pas qu'il y a beaucoup de vidéos, il y en a un peu, mais c'est surtout que c'est dans la façon dont c'est construit, dans la façon dont on passe d'une scène à l'autre, d'une situation à l'autre, et surtout de façon très elliptique, d'où ce titre. Ça s'appelle l'ellipse, c'est écrit d'une façon un petit peu bizarre, parce qu'en fait, cette ellipse dans cette histoire, c'est une hélice, c'est un moyen de transport, quelque chose qui permettrait de s'évader, parce que dans cette société, ils n'ont plus assez d'énergie pour faire fonctionner des moyens de transport qui les emmèneraient assez loin, et sinon ils sont autour d'un sol contaminé. Mais... l'ellipse, vous savez ce que ça veut dire. Une ellipse, c'est un saut temporel entre deux moments. Et donc, l'histoire est racontée de façon très elliptique, puisqu'on passe d'un jour symbolique du commun, de la société, le 1er mai, le 8 mars, le 14 juillet, Noël. Chaque mois, j'ai choisi un jour par mois qui nous raconte quelque chose en commun. Le 14 février, enfin voilà, là, je vous donne des dates un peu... à chaque fois, on les retrouve un jour par mois dans certaines situations, et on reconstruit l'histoire au fur et à mesure, mais comme on a vraiment l'habitude de vivre ça dans les séries télé.
Donc justement, les gens sont assez accros aux séries, hein, on voit bien les succès populaires et les audiences fabuleuses, hein, de certaines séries. Il y a peut-être des trucs, hein, pour qu'une série fonctionne. Est-ce que vous avez trouvé aussi des trucs pour mettre en haleine, en attente, des rebondissements? Et puis ce spectacle peut être vu aussi en deux parties, je crois. Oui, est-ce que d'une partie à l'autre, on sent l'envie de revenir? Et puis voilà, comment vous montez tout ça?
C'est truffé de cliffhanger, donc, et on s'attache aux personnages qui sont tous attachants, chacun à leur façon, ou terrifiants. Mais voilà, donc oui, c'est les cliffhangers, vous savez, c'est cette chose où on laisse les gens dans une situation tendue ou tangible avec un événement fort qui est sur le point d'arriver, on ne sait pas ce qui va se passer. Puis on se retrouve, du coup, un mois plus tard, donc le jour suivant du mois suivant, dans une situation où il s'agit qu'on reconstruise ce qui a pu se passer, et on le comprend. Ben, on le comprend par plein d'indices, donc c'est très ludique dans la forme narrative et dans ce qui arrive au spectateur qui comprend petit à petit tous les enjeux, qui s'attache au personnage. Donc, je sais, des retours que j'ai eus, vraiment, on suit l'histoire et on s'y accroche. Donc oui, entre la première et la deuxième partie, il y a aussi un gros cliffhanger, puisque ce sont vraiment deux étapes différentes de l'histoire de cette société. Je vais dire que la première partie raconte une sorte de révolution, c'est-à-dire on commence sur un système oppressif et le système va basculer. Donc on se débarrasse, entre guillemets, de l'oppression. Mais la deuxième partie, c'est « et maintenant ?» Qu'est-ce qu'on construit et comment est-ce qu'on construit ensemble? Et c'est pas si simple.
J'ai vu, juste avant le Covid, le Noël qui précède ou le Nouvel An qui précède, on va dire, une série qui s'appelle L'Effondrement. Je sais pas si ça vous parle. Et cette série-là est très noire, en fait, est très sombre et donne peu de perspectives. Au contraire, elle est très angoissante. Vous avez choisi un parti pris, je vais dire, plus optimiste, malgré les moments de tension, malgré les moments de noirceur, des questions essentielles à la survie aussi. Mais globalement, vous avez choisi un autre équilibre.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que j'ai besoin, humainement, qu'on a tous besoin, justement, ça rejoint ce que je vous dis du sujet de la pièce. On a besoin de pouvoir se projeter dans quelque chose qu'on puisse projeter. Donc on a besoin de continuer à rêver et de continuer à croire à des possibles. C'est sûr que la situation est difficile. Elle l'est. Mais à un moment, il faut qu'on puisse tous ensemble quand même continuer à être vivant. On est vivant. Pour l'instant, la vie est là sur Terre, malgré tout ce que l'humanité peut faire malgré elle pour la détruire. On est toujours vivant et donc cette vie, comment on va lui permettre de se régénérer et de créer un monde qui soit justement habitable, en fait, dans tous les sens du terme. Pas seulement au sens de survie, mais au sens d'élan et d'envie d'avancer ensemble. Et pour moi, la solution, elle est ensemble.
Alors Cécile Riss, effectivement, ensemble... Pour vous, c'est peut-être plus facile de l'imaginer, puisque vous travaillez avec des équipes, vous mettez en scène, vous avez forcément aussi des avis des uns et des autres pour orienter éventuellement des choix esthétiques, des choix dramatiques. Et une vie de groupe, ça amène aussi l'idée qu'une société est possible, encore, toujours.
Tout à fait. C'est vraiment une métaphore. C'est assez drôle de travailler sur ce spectacle avec une aussi grande équipe, parce que justement, on se retrouve confronté à toutes les questions que pose la pièce. Et donc, c'est une mise en abîme perpétuelle. De comment est-ce qu'on continue comment est-ce que cette cohésion à la fois évolue, se transforme, elle mute sans cesse, mais elle est toujours présente. Et c'est très, très émouvant, ça, par rapport à ce spectacle, de vivre ça ensemble. Parce que c'est un écho direct au sujet de la pièce et qu'on vit ça. Ben on est 22, hein, je crois, dans cette équipe, si on compte les techniciens et les acteurs. Et oui, c'est très riche. Et je pense que le fait qu'on arrive au bout de tout ça prouve que c'est possible. Mais effectivement, il y a nécessairement, c'est mutant, quoi. Il y a des tensions de temps en temps, il y a des choses complexes à agencer, mais du coup, ça nous oblige à nous... Justement, à être mobile.
Donc, cette pièce, l'ellipse, donc H-E-L-I-P-C-E, elle s'inscrit dans une temporalité, un questionnement, et on n'aurait peut-être pas pu l'imaginer il y a 10 ans ou 20 ans.
Alors ça, je ne sais pas si on aurait pu ou pas l'imaginer il y a 10 ans ou 20 ans, mais j'avoue, en fait, si. Puis, enfin, 20 ans peut-être pas, mais moi, j'ai commencé à poser les prémices de cette pièce il y a déjà 8 ans, en fait. C'était un peu par hasard, je participais à un jeu entre auteurs et metteurs en scène acteurs, et on avait une journée pour écrire. Et donc j'ai écrit la première séquence, le premier mois de cette pièce, je l'ai écrite il y a 8 ans. Mais après, je n'avais pas forcément le temps d'écrire la pièce, mais j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui trouvaient très intéressant cette mise en jeu, ce qui était raconté, et la façon dont on rentrait dans la science-fiction, parce qu'il y a aussi un côté science-fiction au théâtre, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, finalement. Et c'est très ludique et agréable, aussi. C'est une façon de venir secouer un peu les codes. Moi, c'est vraiment du théâtre que je fais, mais de venir secouer les codes de ce qu'on a l'habitude d'y voir pour amener de la surprise, du ludique. C'est vrai que mon univers est très ludique. Donc là, les sujets peuvent être sombres, mais la façon dont on vient les aborder, ça se fait par le jeu, et, par le ludisme, le comique et la poésie.
Est-ce que vous pensez que le théâtre, hein, par rapport à ces sujets-là, redonne de l'humain, donc de l'espoir par rapport aux séries?
Ah bah oui, le théâtre, c'est la vie directe, la vie partagée entre le public et les acteurs. C'est une expérience qu'on vit ensemble, justement. C'est une expérience de cœurs qui battent ensemble, en tout cas en écho les uns des autres, en résonance. Il y a vraiment une résonance partagée de l'expérience qui est vécue. Et ça, c'est très fort et c'est pour ça que j'aime le théâtre autant.
Donc, j'imagine que ce spectacle redonnera du souffle aux spectateurs. Il faut qu'ils le retiennent dès leur arrivée, parce qu'il faut être embarqué dans une sacrée aventure. Ça dure quand même 5 heures.
Ça dure 5 heures dans l'intégrale, mais sinon, il y a deux spectacles qui durent l'un 2h30, l'autre 2h15. Donc, ça va, ça reste des formats assez habituels, finalement. Ce qui semble inhabituel, c'est le déploiement quand on regarde l'intégrale. Cela dit, je pense que ça marche. Moi, j'ai très confiance. Je pense que les premières séquences sont assez fortes pour faire basculer dans cette histoire et créer de la tension et du suspense. Il y a beaucoup de suspense dans cette histoire.
Donc, création 2024, un avion et... On parlera sans doute tout à l'heure avec le directeur de ce lieu, hein, le Centre culturel Jean Ferrat. Est-ce qu'ensuite, vous vous projetez dans un avenir de tournée et éventuellement où?
Alors bien sûr, je ne vais pas trop donner les clés parce que ça va se faire petit à petit, c'est en train de se construire. Et dans ce métier, on est toujours très, comment ça s'appelle, superstitieux. Donc voilà, mais évidemment, on va jouer, on espère bien continuer à jouer dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, et puis à Paris. Tout ça est en train de se construire, donc on vous tiendra au courant, mais toutes les infos seront sur le site bordcadre.org. Alors, bordcadre, comme le bord d'un cadre, bordcadre.org.